Bonjour et bienvenue dans notre nouveau café voyage. Au cours de ce café, ce qu'on va voir, comment se loger en voyage. On va faire un petit tour d'horizon de vos possibilités pour vous loger sur la route. Et on va voir également les sites que j'utilise pour réserver mes logements moins chers, des sites où vous allez trouver des bons plans. Je vous en reparle de tout ça à la fin de ce café voyage. L'objectif du jour, ça va être de vous permettre de trouver par vous-même le logement qui vous correspond vraiment en fonction de votre personnalité, de votre budget et de vos aspirations personnelles. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas du tout de vous parquer dans des hôtels pas chers ou dans des logements pas chers, c'est surtout de trouver le bon compromis entre le temps que vous avez à passer sur place, le budget que vous êtes prêt à dépenser pour dormir. Moi, je sais que je déteste même dépenser de l'argent pour dormir, je trouve ça complètement idiot. Du coup, je me rabats souvent vers des possibilités gratuites ou très très peu chères, parce que une fois qu'on est dans le noir et qu'on est allongé, qu'on soit dans un palace 3 étoiles, 5 étoiles ou dans un boui-boui qui coûte 2 euros la nuit, c'est à peu près pareil, hein, à part la qualité du matelas, etc. Mais voilà, grosso modo, moi, une fois que je suis endormi, quoi. Donc voilà, l'idée, moi, je sais que j'aime pas dépenser beaucoup en ce qui concerne le logement. Simplement, voilà, l'idée, c'est de vous trouver à vous, l'objectif du jour, c'est de vous trouver à vous les possibilités pour vous loger pas cher ou vous loger en fonction de votre budget, en tout cas, en fonction de votre personnalité, si vous aimez plutôt les logements de charme ou, si j'ai envie de dire, peu importe, tant qu'il y a un toit et un lit, ou évidemment en fonction de vos aspirations personnelles également, si vous avez plutôt tendance à aimer rencontrer des gens ou si vous êtes plutôt un peu solitaire, si vous avez envie d'être tranquille le soir. Voilà, on va voir, on va faire un tour d'horizon, clairement, un tour d'horizon de vos possibilités sur la route, de tous les logements que moi j'ai pu tester ou les logements que les voyageurs peuvent tester d'une manière générale, et on va trouver ensemble ce qui vous correspond vraiment. Alors, il y en a... j'en ai recensé 1, 2, 3, 4, 5, attendez que je compte correctement. J'en ai recensé 8 plus 1, on va dire, 8 manières de se loger et une technique bonus dont je vous reparlerai à la fin, qui peut vous permettre de faire énormément d'économies, voire carrément de vous loger gratuitement aux quatre coins de la planète. Je vous en reparle à la fin de ce café. On va commencer donc par le plus classique, on va commencer par les hôtels. Alors, les hôtels... personnellement, je suis pas fan du tout. Je trouve ça assez insipide. Pour moi, l'inconvénient majeur de l'hôtel, c'est que c'est quelque chose de très impersonnel. Et quand on voyage, je trouve ça assez sympa, moi, justement, de pouvoir découvrir des choses un peu plus typiques. Et du coup, un hôtel, qui soit d'ailleurs 1 étoile ou 5 étoiles, ou qui soit pas étoilé du tout, ça va être un hôtel qui sera le même, qu'on soit à Paris, à Moscou, à Tokyo ou à Rio de Janeiro. Il y a de grandes chances que ce soit à peu près pareil, avec un grand hall assez luxueux, avec des serveurs aux petits soins, des serveurs du personnel aux petits soins plutôt. Avec, bref, l'idée pour moi, l'hôtel classique en tout cas, c'est quelque chose que j'évite, notamment pour le fait que ça soit quelque chose de très impersonnel. Le deuxième inconvénient majeur de l'hôtel, c'est que c'est rare, on a rarement la possibilité de cuisiner. Et du coup, on va être obligé de manger dehors, ce qui augmente le budget du voyage. Alors, à moins que vous ayez un budget énorme ou que vous détestiez cuisiner, c'est pas forcément un problème. Pour moi, je sais que c'est un problème parce que j'aime beaucoup cuisiner. Deuxièmement, je trouve que je mange beaucoup plus sain quand je cuisine moi-même que quand je mange à l'extérieur. Bon, ça, c'est parce que c'est des choix personnels. Et troisièmement, voilà, je dépense moins aussi. En général, les restos, c'est quand même assez onéreux. Alors que le fait de s'acheter soi-même ces petits aliments pour se cuisiner un petit truc sympa, c'est tout de suite, ça coûte beaucoup moins cher. Donc forcément, voilà. Dans les hôtels, on a très rarement la possibilité de cuisiner. On est obligé de manger dans le hall de l'hôtel, dans le restaurant de l'hôtel, ou alors à l'extérieur, ce qui coûte beaucoup plus cher en général. Le troisième inconvénient majeur de l'hôtel, c'est quand on a un petit budget. Souvent, les hôtels sont en dehors des agglomérations, en dehors des villes, donc en périphérie. Et ça devient tout de suite très compliqué pour relier les centres-villes et pour vraiment visiter la ville. S'il faut commencer par appeler un taxi ou par prendre un bus, puis un métro, puis ceci, puis cela, pour arriver enfin dans le centre-ville, là où il y a les monuments, là où il y a les choses à voir, bien moi je trouve que ça vaut pas le coup, vaut mieux dépenser un peu plus, être dans le centre-ville plutôt que de rester dans un Formule 1 ou l'équivalent d'un Formule 1 en dehors de la ville avec tous les inconvénients que ça peut avoir. Parce que évidemment, si on reste en dehors de l'agglomération, en dehors de la ville, on est tout de suite coincé pour pas mal de sorties, notamment le soir quand les transports en commun sont moins... quand il y a moins de transports en commun, moins de possibilités pour relier le centre-ville. Voilà, c'est le troisième inconvénient, donc c'est quand on a un petit budget et qu'on veut rester à l'hôtel, bien souvent on va devoir se retrouver en dehors des villes, à l'extérieur des centres-villes en tout cas, et forcément derrière ça implique tout un tas de problèmes que l'on n'aurait pas dans d'autres types de logements. Et De fait, pour être en centre-ville, il faut bien souvent mettre le paquet financièrement, en tout cas si on veut avoir un logement correct. Donc voilà, moi, les hôtels, c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande quand vous voyagez. Ou alors vraiment en dernier recours, par exemple la dernière nuit avant de prendre l'avion, si vous savez que vous allez vous lever tôt, qu'il vous faut vous passer une bonne nuit, une bonne nuit avec un sommeil de qualité, et que vous en avez à peu près rien à faire de devoir sortir le soir ou de cuisiner ou quoi que ce soit, bien forcément, dans ce cas-là, vous pouvez vous rabattre sur un hôtel un petit peu en périphérie ou près de l'aéroport. Voilà, là, ça peut être la bonne solution. Mais quand vous partez pour 2 semaines ou 3 semaines de voyage, moi, je vous recommande pas forcément l'hôtel, hein. Après, évidemment, ça dépend. Si jamais le fait que quelque chose de rester dans quelque chose d'assez impersonnel, ça vous pose pas de problème, forcément, vous pouvez y aller. Simplement, voilà. Moi, c'est pas ce que je recommande. Au contraire, je trouve que les hôtels, c'est plutôt à favoriser en dernier recours, hein. Comme je le disais, par exemple, quand vous avez rien du tout, quand vous savez pas où vous allez dormir ce soir, bien là, vous pouvez aller à l'hôtel, évidemment. Ou alors, l'autre option, ça peut être dans les pays pauvres. Bon, alors là, je suis cash, hein, on est entre nous, donc voilà, les pays pauvres, c'est vraiment les pays pauvres, hein, donc c'est le tiers-monde, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, mais par exemple, moi, il y a pas très longtemps, j'étais au Népal. Et dans ces pays-là, on peut vraiment avoir un rapport qualité-prix dans les hôtels du centre qui est vraiment top. Moi, je sais que pour 3... Alors, je payais 300 roupies, je crois, ou 350 roupies la nuit. Donc, s'il fait quelque chose comme 3 euros, 3,50 euros par nuit, mon hôtel à Katmandou, j'étais dans Tamel. Donc, c'est le centre touristique, le centre de Katmandou, le centre historique de Katmandou, avec tous les monuments à proximité. C'était super. Et on payait vraiment... on payait 3 fois rien. On payait 3,50 euros la nuit. J'avais ma chambre à moi qui était super propre. Voilà, c'était pas du tout un hôtel étoilé, c'était pas un hôtel de luxe, hein, mais c'était voilà, c'était un bon hôtel, un hôtel sympa. J'étais au dernier étage, donc j'avais ma terrasse, enfin c'était le toit de l'hôtel en fait, hein, enfin la chambre donnait sur le toit de l'hôtel en fait. Si j'ouvrais ma fenêtre, j'avais juste à enjamber le petit rebord de la fenêtre et j'avais le toit de l'hôtel, donc la terrasse de l'hôtel. Pour moi tout seul quasiment, parce qu'il n'y avait jamais personne qui venait, donc j'étais super bien. C'était voilà, c'était pas cher et c'était d'extrême bonne qualité. Donc voilà, du coup c'est quelque chose, vous pouvez tenter les hôtels dans les pays pauvres, parce que vous allez assez souvent avoir un rapport qualité-prix très intéressant dans ce genre d'hôtel, dans ce genre de pays et dans ce genre d'hôtel. Voilà. Deuxième possibilité pour se loger, c'est les gîtes, ou en tout cas louer une maison indépendante tout équipée. Alors moi j'ai mis le mot gîte, hein, derrière tout ça, ça englobe pas mal de choses. Moi j'aime beaucoup cette option, parce que souvent on s'y sent comme à la maison, hein. J'ai fait ça au Canada, il y a pas très longtemps, j'ai fait ça aussi en Espagne. En Espagne, j'avais à Cadix un logement absolument fantastique, de 35-40 mètres carrés à peu près, avec une chambre, un séjour, une cuisine tout équipée, une super salle de bain, et surtout le top du top, c'est que j'avais une terrasse gigantesque qui était plus grande que l'appartement, sur 2 étages, donc mon étage à moi et puis le dernier étage qui était le toit de l'immeuble qui était privé pour mon appart. Là je me sentais vraiment très bien, il faisait super beau, il y avait des transats, etc. J'ai passé pas mal de temps là-haut, c'était vraiment super sympa. Alors l'idée, c'est Le gros avantage des gîtes, ou en tout cas des maisons indépendantes, des logements indépendants tout équipés qu'on peut louer comme ça, c'est premièrement, on peut cuisiner. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, moi c'est quelque chose qui me plaît, j'aime beaucoup cuisiner, donc quand j'ai l'occasion de le faire, j'aime bien. Non seulement parce que je trouve que je mange mieux et en plus c'est moins cher. Le deuxième avantage, c'est que on a souvent un très bon rapport qualité-prix, parce que généralement on passe par des particuliers, hein. On passe pas par enfin en tout cas moi je suis jamais, quand j'ai loué des gîtes, je suis jamais passé par des chaînes ou des organismes, contrairement par exemple aux chaînes d'hôtels qui du coup le fait qu'on, par exemple les hôtels Accor, hein, toutes les chaînes Accor, on paye la marque, on se dit on va dans un hôtel, c'est la marque Accor, donc on sait qu'on va trouver de la qualité, donc on paye la marque. Quand on loue un gîte, on n'a pas du tout ce problème-là, parce que c'est très souvent des particuliers, des gens qui ont fait un investissement immobilier, hein, donc qui louent le logement en saisonnier. Et de fait, c'est très pro, très propre, très carré au niveau de l'organisation. Il y a énormément de choses, les gens sont souvent très réactifs. Au Canada, on a eu j'ai loué ça avec un couple d'amis, et on a eu un problème avec la cuisine, et le proprio a été super réactif. Le matin, on lui a envoyé un mail, et l'après-midi, il était dans le logement pour régler le problème qu'on avait. C'était vraiment top. Ça a beaucoup plus de charme qu'un hôtel, c'est plus personnel qu'un hôtel, hein. L'hôtel c'est une chambre voilà, avec un rideau, un lit, une télé, un petit meuble et un bureau et c'est tout. Et là, alors que là, l'appartement ou la maison tout équipée est indépendante, eh bien en général c'est décoré, il y a la petite touche perso du propriétaire. Alors forcément, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais en tout cas il y a beaucoup plus de personnalité dans ce genre de logement que dans un hôtel classique. Donc moi c'est ces trois raisons là qui me font aimer et privilégier aujourd'hui ce type de logement. L'inconvénient majeur, le très très gros inconvénient, c'est que c'est la loterie. Il y a des trucs qui vont être vraiment top et des trucs qui vont être vraiment mauvais, vraiment nuls. Et l'inconvénient majeur, c'est qu'on n'a aucune garantie à l'avance de ce qu'on va trouver, hein. Parce que, alors je vais vous donner les sites, hein, vous inquiétez pas, j'en reparle un petit peu plus tard des sites où vous pouvez trouver des maisons ou des apparts indépendants comme ça à louer auprès de particuliers. Mais parfois... ça frise l'arnaque. Voilà, moi en Espagne par exemple, quand je suis parti sur la Costa del Sol avec ma petite sœur pour son anniversaire, je lui avais offert, je me suis dit, bon, on va se prendre 2 semaines en mode farniente sur la Costa del Sol. Et on avait vu un appartement qui avait l'air sympa, dans un petit bled qui s'appelait Calahonda. Et on a loué l'appart, sauf que quand on est arrivé, alors les photos étaient top, il y avait vue sur la mer, etc., cuisine tout équipée, ça avait vraiment l'air chouette. Les photos étaient prises au grand angle, donc ça donnait tout de suite une impression qu'on se retrouvait dans un appart immense. En fait, c'était un studio d'étudiants qui devait faire 12 mètres carrés, pas plus, et on s'est retrouvés à deux là-dedans, on était vraiment l'un sur l'autre, hein, c'est le cas de le dire, on était vraiment, vraiment à l'étroit, c'était pas très très propre, loin de là, on s'est retrouvés avec des cafards dans la cuisine, enfin vraiment... j'ai eu le sentiment de m'être fait un petit peu arnaquer. Et c'était pas très agréable. On payait pas une fortune, hein, on payait 25 euros la nuit, je crois. Donc c'est pas extrêmement cher, mais voilà, quand on paye pour quelque chose, on s'attend à avoir de la qualité ou un minimum de qualité derrière. Là c'était pas le cas, on a vraiment été déçus avec ma sœur. Et voilà, donc bref, ça c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est parfois il y a des arnaques ou des choses qui sont des appartements qui sont un peu borderline. Voilà, c'est pas toujours top. Malheureusement on peut pas le savoir à l'avance parce que bien sûr le site, les photos paraissent géniales toujours. Hein, sur le site dont je vais vous parler, il y a les photographes officiels du site qui vient prendre les photos du logement afin de mettre en valeur le logement et de donner envie aux gens de le louer. Le problème c'est que voilà, en faisant ça, eh bien, ils font des déçus parce que forcément quand la photo est trompeuse, derrière nous on arrive et on récupère un truc qui n'a rien à voir avec la photo, on est déçu et forcément derrière on se sent bafoué voire arnaqué. Bref, donc les maisons indépendantes, pour résumer, il y a des avantages et des inconvénients, ça peut être très très bien comme très très mauvais. Moi j'ai vraiment eu de tout, hein. J'ai eu des trucs vraiment super, au Canada notamment, j'ai eu un logement qui était fantastique en plein cœur de Montréal. Avec une vue sur le Mont-Royal qui était génial. Enfin bref, j'ai passé un super séjour là avec un balcon où on pouvait manger dehors, c'était super équipé, enfin bref. Vraiment les trucs top et vraiment les trucs très mauvais. L'inconvénient, encore une fois, c'est qu'on peut pas le savoir à l'avance. Même s'il y a des recours derrière, le service client du site dont je vais vous parler est plutôt bien fait. Voilà, bref, ça n'empêche que quand on arrive dans ce genre de logement, on peut parfois être déçu. Et derrière, il faut quand même dormir le soir, donc bon, on n'a pas trop le choix. Voilà, ce que je recommande... Si vous voulez louer un gîte ou louer une maison indépendante, ce que je vous recommande, c'est que quand vous le faites, partez à plusieurs et louez une grande baraque, hein, louez un grand appart à plusieurs et vous pouvez diviser les coûts. Parce que généralement, ça va pas coûter beaucoup plus cher de louer un appartement avec 4 ou 5 chambres que de louer un appart avec seulement une ou deux chambres. La différence, ça va être assez minime, si vous voulez. Hein, ça va pas être proportionnel, si vous voulez, en fonction du nombre de chambres. Donc, si vous partez à 4 ou 5, prenez une grande baraque et faites-vous plaisir et du coup, ça va pas vous revenir à beaucoup plus cher. En tout cas, ça ne vous reviendra pas à plus cher que si vous preniez un studio indépendant ou si vous preniez des chambres dans des auberges de jeunesse ou ce genre de choses. Voilà pour les maisons indépendantes. Je vous inquiétez pas sur je vous donne les ressources à la fin de ce café, donc pas de panique. Hein. Numéro 3, c'est les bed and breakfast ou les guest house. Moi, je trouve que c'est le bon compromis entre l'hôtel et le gîte. Hein. Il y a quelqu'un qui est là pour vous accueillir, pour vous préparer le petit-déj le lendemain. C'est plutôt sympa, il y a de la personnalité, on n'est pas dans un hôtel. Et d'un autre côté, on n'est pas non plus complètement à l'abandon. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont là pour s'occuper de nous, alors que dans une maison tout équipée, ça arrive que ça soit... c'est à nous de gérer tout par nous-mêmes. Le gros avantage des guest houses, c'est qu'il y a très souvent des classements par pays ou par ville. Et... il y a souvent des labels qualité. En France, il y a des labels qualité. Alors, je me souviens plus les noms exactement, mais le gros avantage de ça, c'est que derrière, les gens, les hôtes, se sentent obligés d'offrir un service de qualité. Hein. C'est très très rare de tomber sur des bed and breakfast qui ne soient pas de qualité. Parce que je me demande même si le mot bread and breakfast, il n'est pas labellisé. Hein. Ça c'est un gros avantage, c'est que voilà, dans le monde occidental, vous allez avoir rarement des mauvaises surprises sur un bed and breakfast. Généralement, les gens qui font ça en plus le font par passion. C'est souvent des petits retraités qui veulent un complément de revenu, qui ont une grande maison ou un grand logement et qui ont des chambres de libre parce que les enfants sont partis. Et du coup, bien ils ont envie de les louer à des voyageurs et de se faire un petit peu d'argent comme ça. Mais ils le font aussi par passion pour les rencontres, pour parler des langues étrangères, pour rencontrer des gens, etc., etc. Donc c'est vraiment très sympa. L'inconvénient, ça va être le prix, hein. Souvent dans le monde occidental en tout cas, ça va être assez cher. Par contre, le gros avantage, c'est souvent le service de qualité qu'on obtient quand on loue un bed and breakfast. Dans les pays pauvres, vous avez assez souvent des guest houses qui sont différentes pour le coup des bed and breakfast comme nous on a l'habitude d'en voir en Europe. Les guest houses, ça va souvent être un espèce de mini hôtel avec 2-3 chambres et une petite dame ou un petit monsieur sympa qui va tenir son truc et qui va discuter avec vous, qui va vous faire la bouffe, qui va s'occuper voilà, de pas mal de choses pour vous faciliter la vie sur place. C'est très sympa, c'est vraiment agréable, je l'ai fait au Népal. Moi j'ai un copain qui l'a fait aussi dans un petit village au fin fond de l'Himalaya. Et voilà, ça coûtait 3 fois rien son logement. La dame, après ce qu'il m'a raconté, était super sympa. Elle lui faisait de la soupe, elle lui préparait du thé. Quand il partait en trek et qu'il revenait, voilà, il était accueilli avec des fruits secs et tout un tas de trucs super. Bref, il en garde un super souvenir. C'était pas cher du tout, je me souviens plus les tarifs qu'il m'a dit, mais c'était extrêmement peu cher. Voilà, c'est un super compromis, le guest house, entre l'hôtel et le gîte, hein, parce que vous avez, comme je le disais, à la fois quelqu'un qui est là pour vous servir, et en même temps le fait d'être beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus personnel, personnalisé, beaucoup plus agréable qu'un hôtel. Voilà, hein, ça c'est le troisième point, les bed and breakfast ou les guest house. Et la quatrième manière de se loger, quelque chose à laquelle on ne pense pas tous les jours, en tout cas c'est très rare que je vois des gens qui rentrent de voyage et qui me disent tiens je me suis logé dans un camping, c'est les campings dont je voulais vous parler. C'est une option que peu de voyageurs considèrent alors qu'en fait c'est une super idée. L'idée c'est pas du tout de faire son Patrick Chirac hein, dans le film Camping si vous vous rappelez là avec son slip de bain. Non, c'est juste d'avoir un logement sur le camping et de pouvoir bouger autour ensuite, donc trouver un endroit qui vous plaît, hein, que ce soit, c'est souvent dans la nature parce qu'un camping c'est rarement dans les centres-villes, donc plutôt dans la nature, en bord de mer ou à la montagne ou aux abords d'une forêt ou je sais pas, ou près d'un fleuve, enfin un endroit qui vous plaît dans la nature et après vous allez pouvoir bouger. Alors ça c'est le top. Si effectivement vous êtes déjà attiré par la nature, parce que bah voilà, il y a des gens qui sont plutôt attirés par les villes ou l'architecture urbaine ou les monuments ou ce genre de choses, c'est top aussi si vous avez votre propre véhicule. Sinon c'est galère, hein, vraiment, sinon c'est très très compliqué. Moi je l'ai fait à Amsterdam parce que j'avais pas le choix en fait, on s'y est pris un peu tard avec des amis, on voulait absolument aller à Amsterdam pour le... Alors si on était au mois d'avril, ça va être le week-end de Pâques je crois. Et en fait, on s'y est pris à la dernière minute pour réserver. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait aucune auberge, aucun logement possible dans Amsterdam. Du coup, on s'est rabattu sur un camping en dehors d'Amsterdam. Heureusement, on avait notre propre véhicule, mais c'était super compliqué de se déplacer quand même. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était visiter Amsterdam. On s'en foutait un petit peu de la nature qui était. Enfin, de la nature, il n'y avait pas grand chose d'ailleurs, mais on avait. Enfin, voilà, les Pays-Bas, c'est tout plat, il n'y a pas grand chose. Ce qu'on voulait voir, c'était la ville d'Amsterdam. Et là, c'était vraiment compliqué. Il fallait prendre une navette du camping jusqu'à un espèce d'arrêt de train de banlieue. Et du train de banlieue qui nous emmenait à la gare centrale d'Amsterdam et ensuite on pouvait se dispatcher dans Amsterdam comme on voulait. C'était vraiment compliqué. Donc je vous recommande le camping, c'est si vous êtes plutôt nature et si vous avez votre propre véhicule. Hein. Et troisième point, s'il fait beau et chaud. Parce qu'il m'est arrivé justement à Amsterdam, c'était donc début avril pour le week-end de Pâques. Le gros problème qu'on a eu, c'est qu'à cette période-là de l'année, donc c'était en 2013, il a fait très 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 froid. Il a neigé pendant qu'on était dans notre petit bungalow et je peux vous garantir qu'on a très très fort, on s'est caillé les miches comme pas possible. Et voilà, on garde un souvenir assez rigolo rétrospectivement, mais sur le moment on avait vidé nos sacs et on avait mis toutes nos fringues sur nous parce qu'il neigeait et enfin il neigeait à l'extérieur, évidemment il neigeait pas dans le bungalow, mais du coup dans le bungalow la température devait pas être très très loin du 0 degré. En tout cas, il faisait pas plus de 5 degrés. Hein. Il y avait la condensation dès qu'on ouvrait la bouche. On a dormi avec les gants, les écharpes, les bonnets, les manteaux. Enfin, et on avait un pauvre petit radiateur, une espèce de radiateur électrique qui est censé être un radiateur d'un point, qui était censé être là pour nous réchauffer. Mais bref, on a vraiment eu très très froid. On est tous ressortis de notre séjour à Amsterdam avec une crève monumentale. Bref, c'était on le refera probablement jamais parce qu'on en garde un souvenir assez rigolo rétrospectivement, mais sur le moment c'était chiant parce que du coup on dormait très très mal. En journée on profitait pas vraiment parce qu'on était fatigué, puis pas de très bonne humeur non plus quand on dort pas. Enfin bref, voilà. Donc l'idée c'est si vous êtes plutôt nature, si vous avez votre propre voiture et s'il fait beau et chaud, vous pouvez aller en camping. Si vous avez un petit budget, c'est intéressant aussi parce que généralement le camping c'est pas trop cher, hein, en tout cas ça reste abordable. Et surtout si vous êtes d'humeur aussi à socialiser avec les voisins, ça c'est un truc qui est plutôt sympa, c'est qu'en camping on fait des rencontres. Après bon ça dépend, c'est pas forcément la rencontre que vous avez envie de faire, mais en tout cas on peut en faire, donc c'est quelque chose à garder dans un coin de sa tête. Les inconvénients, je le disais, c'est des difficultés à relier la ville. Hein, c'est pas, les connexions sont pas toujours très bonnes. Souvent le camping c'est plutôt pour vivre un petit peu en communauté ou en vase clos autour du camping, donc avec les gens qui y sont également. Donc c'est pas forcément pour quitter le camping et puis aller visiter la ville à côté. Hein. L'inconvénient c'est ça. Le confort qui peut être assez limité aussi. Donc si vous êtes dans une tente, forcément ça, vous allez mal dormir, ça va être bruyant, etc. Si vous êtes dans un bungalow, c'est un petit peu mieux, mais ça va pas toujours être top. Et puis un inconvénient majeur, c'est surtout d'avoir votre propre véhicule. Voilà. On en a fini sur le numéro 4, les campings. On va voir la dernière option de la première partie, à savoir les auberges de jeunesse. Alors les auberges, j'en suis un petit peu revenu. Au départ, je trouvais ça vachement sympa, hein, parce que c'est l'occasion de rencontrer des gens, c'est de socialiser. C'est souvent des jeunes, des bonnes ambiances. Il y a moyen de cuisiner, parce que souvent, il y a des cuisines à dispo avec tout le matériel possible pour cuisiner. Donc moi, j'aimais bien. Hein. En plus ça coûte pas très cher, c'est souvent avec un petit budget entre 15€ et 30€ la nuit, on peut trouver des trucs chouettes. Les auberges sont souvent bien situées, souvent dans les centres-villes, ça c'est très très agréable également quand on veut sortir le soir, on n'a pas besoin de se taper des heures de transport, hein. il suffit de sortir, faire quelques mètres et puis hop partir. Il y a aussi assez souvent des événements qui sont organisés dans les auberges, des espèces de barathons, ce genre de choses, donc ça peut être très sympa quand on a envie de rencontrer des gens ou qu'on a envie de sortir et qu'on a envie aussi de se laisser guider, hein, pas passer des heures à fouiller la ville pour trouver un bar sympa, on se laisse guider par la personne qui vient récupérer les participants, donc c'est plutôt agréable, mais il y a un gros mais. Moi j'en suis revenu des auberges aujourd'hui, je supporte plus, j'y vais vraiment en dernier recours quand j'ai pas le choix. Les inconvénients majeurs selon moi, c'est que les auberges sont très bruyantes, en tout cas en dortoir, mais même dans les chambres privées, hein, parce que l'isolation est rarement très bonne. Donc en général en dortoir, quand vous êtes plus de 6, c'est juste catastrophique. Il y a toujours quelqu'un qui va rentrer tard, qui va être bourré, qui va ronfler, qui va faire du bruit, qui va discuter. Il y a des gens qui se lèvent tout le matin, il y a toujours du mouvement. Hein. Disons que le seul créneau où vous pouvez être à peu près tranquille pour dormir, c'est entre 2h du mat et 6h du matin. Hein, parce que 2h, c'est rare qu'il y ait des gens qui rentrent après 2h du matin, hein, au dortoir. Et 6h, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se lève tout le matin pour prendre un avion, pour prendre un train, pour ceci, pour cela. Donc vraiment, c'est galère. Il y a toujours du passage, c'est très bruyant. Ça peut être assez sale aussi parfois. Enfin, c'est rare que l'hygiène dans les auberges de jeunesse soit vraiment top. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas en avoir vu. J'en ai pas vu des vraiment dégueulasses, mais j'en ai pas vu des vraiment propres non plus. Donc voilà, faut le savoir avant de se décider à y aller. Et surtout, derrière, le gros inconvénient, c'est que vous allez avoir un sommeil de qualité catastrophique. Moi, j'ai eu... Je pense que, j'ai dû faire peut-être une vingtaine, une trentaine de nuits en auberge de jeunesse, et 90% du temps, j'ai mal dormi, quoi. 90% du temps, je me suis fait réveiller en pleine nuit par des nanas bourrées. Ça, c'est arrivé en Écosse. On était partis à 4, et on avait un dortoir de 10 personnes, et on pensait qu'on allait être tranquille, qu'on y avait juste nous 4 dans le dortoir, parce que quand on a pris possession du dortoir, il n'y avait personne d'autre. Simplement, en pleine nuit, il y a des nanas complètement bourrées qui sont rentrées, qui ont raconté n'importe quoi. C'était des Anglaises qui venaient faire, je pense, un enterrement de vie de jeunesse. jeune fille ou un truc comme ça. Et voilà, y en a, je me rappellerai, il y en a une qui était allongée au milieu du dortoir. Elles avaient allumé les lumières, il était genre 4h du matin. Elles avaient allumé les lumières et gueulé quelque chose. Elle était allongée au milieu du dortoir et nous, on était là à essayer de dormir. C'était à la fois drôle et pathétique parce que, enfin voilà, c'est évidemment... rétrospectivement, quand on en reparle, on en rigole, mais sur le moment, pareil, on était vraiment, vraiment de mauvaise humeur. La chose qu'on voulait, c'était nous dormir pour profiter le lendemain de visiter la ville, quoi. Donc voilà, j'ai des exemples comme ça dans les auberges, j'en ai plein. J'ai écrit plusieurs articles sur le blog aussi où je parle de mes aléas en auberge jeunesse, donc je vous laisse découvrir ça si vous avez envie de voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur mes anecdotes de voyage. Voilà, c'est pas forcément ce que je recommande. L'avantage principal, c'est que ça coûte pas cher, que c'est central et que vous allez y faire des rencontres. L'inconvénient, c'est que vous allez mal dormir, quoi. Clairement, vous allez mal dormir. Les lits sont souvent voilà, les matelas et pas très bonne qualité. Des fois, si vous êtes grand comme moi, il y a des barreaux au lit, alors vous tapez dedans en pleine nuit et vous vous réveillez. Enfin, bref, c'est catastrophique. Moi, j'ai jamais bien dormi en auberge de jeunesse. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Alors, on va passer maintenant, parce que je vous disais, j'ai annoncé 8 plus une technique pour se loger. Donc, j'en ai annoncé 5 là. Hein, les auberges de jeunesse, les campings, les bed and breakfast, les maisons indépendantes, donc les gîtes, et les hôtels. Il y en a trois autres techniques pour se loger qui sont gratuites. Alors ça va vous intéresser probablement si vous voyagez avec un petit budget. La première technique pour voyager gratuitement, pour se loger gratuitement en voyage plutôt, c'est le couchsurfing. Alors le couchsurfing, moi je suis un gros fan, j'utilise énormément ce mode de voyage, ce mode de logement. Alors, pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est que c'est gratuit, donc quand on a un petit budget, c'est super. La deuxième raison, c'est pour ça surtout que j'utilise moi maintenant, c'est pour faire des rencontres, parce que moi je voyage seul l'immense majorité du temps, et évidemment j'ai envie de rencontrer des locaux, j'ai envie de découvrir la culture locale, j'ai envie de voir comment les gens vivent, j'ai envie de me faire des amis aussi aux quatre coins de la planète. Et pour ça, le couchsurfing, c'est super parce qu'on rencontre des gens ouverts d'esprit, des gens accueillants, des gens qui font ça par passion, hein. Contrairement par exemple aux gens qui vont louer une chambre dans leur maison ou qui vont faire de la location saisonnière, qui eux font ça pas que, mais aussi pour l'argent. Là, en couchsurfing, c'est des gens qui sont complètement désintéressés, qui font ça par passion des voyages, par passion des rencontres, par passion des langues étrangères. Parce que aussi des fois, ils adorent, ils aiment leur ville et ils ont envie de la faire découvrir aux gens qui y viennent. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Je vous encourage à tester le couchsurfing si vous avez l'occasion. C'est vraiment un moyen extraordinaire de découvrir une ville. En plus, vous allez choper les bons plans des locaux. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien visiter via le couchsurfing, parce que les locaux, ils ont toujours des bons conseils à vous donner, hein. J'en parlais dans un précédent café voyage, il me semble. Mais voilà, c'est quand on connaît bien sa ville. Évidemment, on connaît les bons plans que les touristes ne connaissent pas. Donc forcément, moi, si je vous demande dans la ville où vous êtes aujourd'hui, si je vous demande de me sortir des bons plans, je suis sûr que vous allez réussir à m'en sortir. Alors que si je vous demande de m'en sortir sur Moscou ou sur New York ou sur je sais pas moi, ou sur Dakar ou sur Sydney, vous allez probablement pas réussir. Les seules choses que vous allez peut-être me dire, ça va être les points touristiques. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le couchsurfing, non seulement pour me loger gratuitement, mais surtout pour faire des rencontres et découvrir les bons plans, quoi, et découvrir là où les gens sortent, les gens vivent, voilà, découvrir la vraie ville et pas seulement la ville touristique que je visite. Alors, il y a des inconvénients au couchsurfing. Ça dépend de ce à quoi vous faites attention, mais pour moi l'inconvénient majeur, c'est que c'est pas toujours très central. Moi j'aime bien sortir le soir, j'aime bien aller prendre un verre dans un bar ou sortir, quoi, tout simplement au resto ou ce genre de choses. Et quand on est excentré avec le couchsurfing, c'est un peu plus compliqué parfois. Déjà, ça veut dire qu'il faut réussir à trouver le logement de l'hôte, donc on passe du temps parfois. Moi, ça m'est arrivé de passer une demi-journée à essayer de trouver un logement parce que les indications étaient mauvaises. Enfin, moi, j'avais mal compris les indications, on me les avait mal données. Bref, au final, c'était un peu compliqué d'atterrir chez l'hôte, et ensuite il fallait ressortir et re-rentrer, etc. C'est pas toujours très pratique. Donc ça, pour moi, c'est l'inconvénient majeur. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on est obligé de faire la causette avec l'hôte. Hein. Il y a des gens, ils utilisent le couchsurfing comme un logement gratuit pur et dur. C'est pas du tout ça. L'esprit du couchsurfing, c'est l'échange, c'est l'entraide, c'est le partage. Et si votre objectif, c'est de simplement utiliser le matelas ou le canapé ou la chambre de votre hôte et de rien lui donner en échange, à savoir... partager vos anecdotes de voyage, discuter avec lui de choses et d'autres, de pas forcément que de voyage d'ailleurs, mais de plein de trucs. Si vous faites pas ça, vous allez être un mauvais couchsurfer, parce que voilà, l'idée du couchsurfing, encore une fois, c'est de partager, c'est d'échanger, leur devise, il me semble, c'est faire du monde une better place, enfin, faire du monde un monde meilleur en quelque sorte. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de partager, et du coup, ben, quand on n'est pas d'humeur, quand on n'a pas envie de faire la causette, ça arrive parfois, on est fatigué, on a juste envie de se coucher et de dormir, là le couchsurfing n'est vraiment pas recommandé, parce que évidemment votre hôte il va vouloir discuter avec vous, il va vouloir papoter avec vous. Alors ça arrive parfois qu'il y ait des gens qui soient qui donnent les clés et qui disparaissent, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Je trouve ça... Ben moi, c'est des expériences où j'ai été un peu déçu, parce que mon objectif, moi, quand je vais chez les gens, c'est aussi bah, de les rencontrer, de les découvrir, d'en apprendre des choses sur eux, d'apprendre des choses sur ce qu'ils ont fait, sur leur passion, voilà, enfin, d'échanger, tout simplement. Et du coup, quand on tombe sur un autre qui nous donne les clés, qui nous dit, voilà, c'est ta chambre, tu fais ce que tu veux, tu fais tes allées et venues, moi, je suis là, et voilà, si t'as besoin de moi, tu viens me parler, mais sinon, tu me fous la paix. Moi, ça m'est arrivé deux, trois fois, et je trouve que c'est un petit peu dommage. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est en Italie, avec un mec qui avait l'air vraiment chouette. En tout cas, son profil était vraiment intéressant. Et je voulais absolument rester chez lui parce que je suis sûr qu'il allait avoir plein de trucs à partager. C'est un mec qui avait voyagé seul en Iran, en Palestine, enfin dans plein d'endroits où on n'est pas forcément, enfin en tout cas où j'ai pas rencontré énormément de gens qui sont allés dans ces pays-là. Et j'avais vraiment envie de voilà discuter avec lui. Et en fait avec lui le courant n'est pas passé du tout. Enfin c'est même pas que le courant n'est pas passé, c'est que il m'a refilé les clés de son appart et il m'a dit voilà tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux. Mais il était jamais là quoi. Clairement je l'ai quasiment pas vu, j'ai quasiment pas parlé avec lui et j'ai trouvé ça très décevant. Bref, voilà, le couchsurfing. Gros avantage, c'est que c'est gratuit, vous allez faire des rencontres et vous allez récupérer des bons plans. Le gros inconvénient, c'est que la localisation peut être très aléatoire. Vous êtes obligé de faire la causette avec l'autre, et parfois aussi le dernier inconvénient, c'est que parfois le feeling ne passera pas. Parfois, vous allez la personne avec qui vous allez rester, ça va pas le faire, quoi. Vous allez voir que vous allez pas vous entendre avec elle. Alors des fois, ça va juste être un petit peu gênant parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Puis parfois vous allez carrément vous engueuler. Bon, moi ça m'est jamais arrivé ça, mais c'est vrai que ça arrivait deux trois fois. Voilà, des gens avec qui j'ai pas grand chose à dire. Aujourd'hui, je fais très très attention aux gens que je choisis en couchsurfing. Hein. Aussi bien quand moi j'héberge que quand je me fais héberger, je lis attentivement les profils et je sélectionne attentivement. J'envoie très très peu de requêtes pour me faire héberger. Et je fais en sorte voilà, de cibler vraiment les gens pour être sûr, ou en tout cas pour maximiser mes chances que le courant passe bien avec ces gens-là. Bref, le couchsurfing, je vous prépare pour très bientôt un document ultra complet sur le couchsurfing, donc je vous en reparlerai. Si jamais ça vous intéresse, restez attentifs aux prochaines parutions sur Hot Calls, parce que voilà, je vous prépare quelque chose qui devrait vous aider pour réussir votre session couchsurfing. Alors, couchsurfing, c'était la première des trois choses pour se loger gratuitement. La deuxième, c'est le house sitting. Le house sitting, j'en ai parlé dans mon guide Offrez-vous une vie de voyage. Le principe, c'est comme le baby sitting, hein, comme le dog sitting ou le pet sitting. C'est vous garder une maison, un petit peu comme vous garderiez un enfant. Hein. On vous confie les clés d'une maison, on vous dit, voilà, vous en prenez soin. Et voilà, derrière vous logez gratuitement à l'intérieur, mais en échange de menus travaux. Hein, donc entretenir, je sais pas moi, arroser les plantes, nourrir les poissons rouges. Genre de choses. Le gros avantage, c'est que c'est gratuit, évidemment. C'est que c'est pratique dans le sens où vous avez tout à disposition, hein, vous vivez comme un local, il y a tout est équipé, donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à essayer de chercher des... Voilà, par exemple, c'est pas comme à l'hôtel où, voilà, si vous voulez cuisiner, vous êtes coincé, pas du tout, là, vous avez tout ce qu'il vous faut à disposition, hein. Vous allez vivre dans une maison où il y a des gens qui vivent habituellement. Ça, c'est le gros avantage. L'inconvénient, c'est que vous allez vraiment devoir vous occuper de la maison, parce que les gens qui partent, ce qu'ils attendent, eux, c'est pas qu'il y ait quelqu'un dans leur baraque pour vous faire plaisir, non, c'est que leur maison elle soit entretenue, on en prenne soin. Donc forcément, derrière, ça va vous engager à prendre soin de la maison, hein. Vous n'allez pas choisir les dates vous-même, alors vous pouvez les choisir à peu près, mais voilà, généralement, si vous vous engagez à rester 3 mois au même endroit, vous devez rester les 3 mois. Vous ne pouvez pas partir comme dans un hôtel ou comme dans la plupart des cas dans les autres logements, vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain parce que vous avez changé vos plans. Vous êtes engagé à rester dans la durée du séjour que vous avez, pour le contrat que vous avez signé, donc vous devez le faire. Voilà, c'est contractuel, vous êtes obligé de le faire. Hein. Alors les sites internet couchsurfing, c'est couchsurfing.org, je vous remets tout ça par écrit. Hein. Le house sitting, j'en ai déjà parlé dans... Bon, je vous remets tout ça par écrit, voilà, je vais pas vous donner les URL comme ça à l'oral parce que ça va rien donner. Je vous mets tout ça en un document écrit, donc comme ça vous aurez juste à cliquer, vous tomberez directement sur les sites internet concernés. Troisième option, c'est l'échange de logement. Alors on n'y pense pas souvent, mais l'échange de logement, c'est super chouette parce que ça vous permet d'aller n'importe où dans le monde avec un logement qui vous attend quand vous descendez de l'avion, et ça c'est super. Le gros inconvénient, alors c'est super parce que forcément c'est gratuit, c'est pratique, encore une fois vous avez tout à disposition, hein, vous vivez comme un local. généralement vous allez tomber sur des trucs plutôt chouettes, hein. Et en plus, comme les gens partent et vont eux aussi aller dans une autre maison, voilà, le système c'est un échange de maisons, donc les gens qui laissent leur appart ou leur maison vont à leur tour squatter une autre maison ailleurs, bien chacun prend énormément soin de la maison des autres en fait, parce que personne n'a envie de rentrer chez soi et de voir que tout a été mis en bordel. Donc voilà, c'est une très très bonne option à laquelle on ne pense pas souvent. L'échange de maison. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir un logement. Hein. Il faut avoir un logement à échanger. Donc c'est pratique si vous partez 2 semaines, par exemple. Hein, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais si vous partez pour un tour du monde, bah, c'est une option, malheureusement, que vous ne pourrez pas envisager, à moins d'avoir quelqu'un qui s'occupe de votre maison en France, quoi, qui s'occupe de donner les clés aux gens, etc. Bon. Le dernier point, le point bonus dont je voulais parler, pour vous loger gratuitement, on n'y pense pas toujours non plus, mais c'est tout bête, et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez probablement pouvoir vous loger gratuitement partout sur cette planète. Il s'agit, encore une fois, il faut avoir un logement, mais il s'agit de mettre en location votre propre logement en France quand vous êtes en voyage. C'est une super technique pour rentabiliser un voyage. On en reparlera, ça sera le sujet d'un des prochains Café Voyage. D'ailleurs, hein, de rentabiliser un voyage, des techniques qui vont vous permettre de financer votre voyage. Donc, j'en ai déjà parlé dans Offrez-vous une vie de voyage, mais on verra d'autres techniques et puis on en approfondira certaines. Mais l'idée, voilà, c'est ça. C'est si vous avez un logement que vous allez quitter quand vous partez en voyage, mettez-le en location sur certains sites internet, notamment je pense à Airbnb ou à Wimdu.fr par exemple, où vous pouvez proposer des logements à des voyageurs, hein, français ou étrangers. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut quelqu'un pour lui remettre les clés, hein, donc il faut quelqu'un qui soit de confiance, que vous connaissez, la famille, un ami, un voisin à qui vous pouvez confier les clés de votre appartement ou de votre logement pour les remettre à la personne, au futur locataire. Mais le gros avantage que ça a, c'est que très 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 souvent, dans l'immense majorité des cas, comme le coût de la vie en France est supérieur au coût de la vie dans l'immense majorité des pays du monde, le coût de votre logement va compenser le coût de ce que vous allez gagner en louant votre appartement va compenser ce que vous allez dépenser en vous logeant sur place ailleurs dans le monde. Donc voilà, c'est une super technique pour loger gratos, parce que même si vous dépensez des sous, vous en gagnez. Pendant que vous en dépensez, vous en gagnez. Donc ça, c'est vraiment excellent. Il y a deux inconvénients, c'est qu'il faut avoir votre propre logement, qu'il faut qu'il soit quand même plutôt sympa pour attirer des gens, qu'il soit bien situé, qu'il soit dans une grande ville ou en tout cas près de points touristiques, enfin, autrement c'est plus compliqué effectivement. Et il vous faut quelqu'un de confiance pour remettre les clés, pour faire un petit peu de ménage, etc. Donc quelqu'un que vous allez, soit un ami ou une famille qui fera ça, quelqu'un de la famille qui fera ça gratuitement, soit quelqu'un que vous allez payer pour le faire. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une option que je vous recommande de considérer si jamais vous voulez financer, pas forcément financer tout votre voyage, mais en tout cas financer une bonne partie, notamment la partie logement de votre voyage. Voilà, alors les sites internet, je disais, hostelworld.com, je vous les remets par écrit, bon, je vais quand même vous en parler rapidement. Hostelworld.com, c'est des comparatifs d'auberge de jeunesse sur les prix, sur le nombre de dortoirs, le nombre de chambres, les équipements, etc. S'il y a du wifi, s'il n'y en a pas, il y aura des avis aussi avec la sécurité, éviter de se faire voler ses affaires, etc. Enfin bref, hostelworld.com. Booking.com, vous allez trouver beaucoup d'offres en promo, hein. Vous pouvez réserver là-dessus, il y a très très souvent des offres à moins 20, moins 30, moins 50% sur plein de types de logements. C'est une très bonne option que je vous recommande de considérer, booking.com. Et le troisième site que j'utilise très souvent maintenant, c'est Airbnb.fr. Alors Airbnb, donc j'en parlais quand j'ai parlé tout à l'heure de se trouver un gîte, voilà, des maisons indépendantes. Je me suis perdu dans mes petites fiches. Quand vous voulez louer une maison indépendante, donc c'était le point numéro 2, allez sur Airbnb, hein. c'est là que moi j'utilise Airbnb et Wimdu. Wimdu, je crois que c'est un français qui a créé ça. Airbnb, c'est international, donc ça doit être américain, il me semble. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de possibilités sur Airbnb. Donc je vous recommande d'aller jeter un œil. Voilà, hein. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Derrière, et évidemment, Airbnb se prend une commission sur chaque logement, mais voilà, c'est quand même un choix assez énorme. Et voilà, il y a plus, à mon avis, c'est plus sympa de rester dans un appartement chez quelqu'un qui le met en location, que ce soit du saisonnier ou quelqu'un qui habite là et qui s'absente pour une période plus ou moins courte, et plutôt que d'aller à l'hôtel ou plutôt que d'aller dans un truc qui est complètement impersonnel où voilà, vous aurez voilà, vous aurez aucun avantage parce que voilà, les hôtels, encore une fois, c'est pas, enfin à mon sens, l'hôtel c'est probablement le pire moyen de voyager. Voilà, la semaine prochaine, je vais vous donner des astuces pour faire un maximum d'économies en voyage, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas moi, je voilà, j'ai un petit budget, donc j'essaie de dépenser le moins possible quand je voyage, pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce que premièrement j'ai un petit budget, puis deuxièmement, je suis pas quelqu'un de très dépensier, voilà, j'aime pas balancer l'argent par les fenêtres. Donc il y a des techniques, j'ai mis au point des techniques pour économiser au maximum en voyage, et je vais vous en parler la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine, et bon voyage si vous partez. À bientôt, salut salut.